écouter Ainsi soit-elle.
Quand j'étais une petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Deux hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer. Et si tu me paries les réponses aux grands défis de l'univers, et même si tu me traites de creuse, tant mieux, j'aime la vie en anarchie.
Cette semaine à Ainsi soit-elle, vous êtes en compagnie d'Hélène et Evelyne. Bonjour Hélène.
Allô.
On salue aussi Hélène à la mise en onde. Alors, cette semaine, on va parler d'une émission bien chargée comme à l'habitude. On va d'abord recevoir David Moffett en entrevue pour nous parler du groupe No One is Illegal Toronto. Et ensuite, je vais vous lire des extraits d'un texte de Francis Dupuy-Déry sur la place des hommes pro-féministes dans le mouvement féministe. Donc, c'est ça qui va remplir notre émission. Et on va commencer tout de suite légèrement en musique avec une pièce, Hélène, que tu nous as préparée.
Oui, je l'ai repêchée dans mes classiques du jazz. En fait, j'ai sorti une pièce de Marilou Williams qui s'appelle Syllogism.
Un peu plus tard.
Mais en fait, peut-être qu'on peut parler de notre site Internet pendant ce temps-là, parce qu'on a maintenant un site Internet qui est de plus en plus fourni. Alors peut-être qu'on peut donner l'adresse, Evelyne?
Oui, c'est le nom de notre émission, Ainsi soit-elle au pluriel avec des traits d'union. .org, donc tout simplement.
Là-dessus, vous allez pouvoir avoir évidemment, le site est en construction, mais on a nos émissions, on a différentes choses. On a des affiches.
Quelques archives,
c'est ça. Donc, c'est pas si pire.
Je pense qu'on est en train de partir en musique.
To the bright light city, sweet old Chicago. Love me in the morning and love me late at night. Well, I done got so I can't hardly bear you out of my sight.
Vous êtes toujours sur les ondes de Ainsi soit-elle à CKIA 88,3. Et on s'entretient aujourd'hui avec David Moffett qui est à Toronto et qui va... David, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là.
Ah, bonjour. Alors, super. On va parler de No One is Illegal Toronto. En fait, tu es à Toronto actuellement et tu commences à t'impliquer dans ce groupe-là. Donc, peut-être tu peux nous présenter un peu qu'est-ce que fait le groupe No One is Illegal à Toronto.
En fait, No One Is Illegal, c'est ça, c'est plusieurs groupes un peu partout qui sont tout à fait indépendants, mais qui partagent un certain nombre de principes et de demandes. Et donc, No One Is Illegal Toronto, c'est un regroupement de personnes migrantes, réfugiées, racialisées, et puis de leurs alliés. Et puis donc, on s'organise afin de faire valoir des statuts pour tous et toutes, la fin des détentions et des déportations de migrants, et puis plus généralement des emplois de qualité pour les migrants, une lutte contre le racisme, contre les certificats de sécurité, en appui aussi à la souveraineté des peuples autochtones. Mais donc, de façon générale, l'idée derrière cette organisation-là, c'est que personne n'est illégal, que personne ne devrait être illégalisé, que tout le monde a le droit à la dignité, que ce soit des personnes migrantes avec ou sans statut, ou les peuples autochtones.
Donc, ça, c'est très similaire à No One Is Illegal Montréal ou à d'autres regroupements qui luttent pour l'immigration. Mais comment No One Is Illegal est organisé à Toronto? Est-ce que c'est différent d'ailleurs? Qui participe? Est-ce que c'est des groupes, des individus qui sont membres?
À Toronto, c'est des individus qui sont membres. Par contre, le groupe de Montréal est davantage un collectif de personnes racialisées, donc de personnes qui se considèrent victimes de racisme ou racialisées, qu'ils soient migrants, réfugiés ou qu'ils ou elles soient nés au Québec. À Vancouver, où il y a un autre No One Is Illegal, c'est aussi davantage un collectif, mais qui n'a pas ce principe de non-mixité-là. Et puis à Toronto, c'est une organisation qui est beaucoup plus large, qui compte une cinquantaine de personnes, plus ou moins actives, et qui est ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées à lutter pour la justice en matière d'immigration et donc pour davantage d'ouverture des frontières.
Et on va parler dans le cadre de l'émission de différentes campagnes. Peut-être qu'on peut rappeler les demandes générales de No One Is Illegal, parce que ça fait longtemps que le groupe existe, donc ils ont, comme je dirais, des demandes qui sont toujours en arrière-plan. Donc peut-être qu'on peut rappeler les principales demandes du groupe ou...
Oui, donc avant, c'est ça qu'on entre dans les détails de comment ça s'articule et comment on essaie d'obtenir ça. Donc, les demandes principales, c'est la fin de toute déportation et détention de migrants, un processus de régularisation de toutes les personnes sans statut stable d'immigration au Canada, l'accès facile et sans peur pour les personnes sans papier à tous les services essentiels, que ce soit les centres pour femmes violentées, l'éducation, la santé, etc. Donc, une politique où on demande aux gens qui mettent en place ces services-là de ne pas demander ou divulguer l'information concernant le statut d'immigration, la reconnaissance de la souveraineté autochtone, la fin des programmes de travailleurs migrants temporaires, qui sont des programmes orientés vers une exploitation de ces migrants-là, et donc pour des emplois décents et stables pour les migrants, la fin des guerres d'occupation et des guerres impérialistes qui, évidemment, contribuent à déplacer les populations, et aussi la fin et l'abolition des certificats de sécurité qui sont, comme certaines personnes peuvent peut-être connaître, des mesures employées par le gouvernement canadien pour détenir à huis clos, en secret, certaines personnes qui seraient soupçonnées d'avoir des liens avec des organisations terroristes. Donc,
c'est des demandes ambitieuses.
L'abolition de ces certificats de sécurité.
Oui, c'est des demandes ambitieuses que No One Is Illegal a, mais on va voir comment, entre autres, No One Is Illegal Toronto s'organise pour gagner certaines de ces demandes-là. Donc, on va revenir après la pièce musicale sur des campagnes plus spécifiques. Pour le moment, on s'en va écouter le groupe DAM avec la pièce « Mes endroits ». Le groupe DAM, c'est un groupe de hip-hop palestinien qui est venu à Québec il n'y a pas longtemps. Donc, je vous fais entendre ça.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una Porque una mujer defendió su derecho de la montaña. se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de red. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa.
Alors, vous aurez deviné que ce n'était pas Dame, c'était plutôt Lila Downs avec la pièce Dignificada, qui est une très bonne pièce par ailleurs. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, David, est-ce que tu es toujours avec nous?
Je suis toujours avec vous.
Alors, on va parler de la campagne Un statut pour tous, dans le fond, de No One is Illegal. Peux-tu nous expliquer un petit peu, dans le fond, en quoi consiste cette campagne-là de No One is Illegal?
Oui. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que No One is Illegal à Toronto a deux espèces d'axes. Un qui est donc statut pour tous et toutes, où on regroupe en fait toutes ces demandes-là qui sont très ambitieuses. Et qui passe par une lutte pour évidemment un endroit où les contrôles migratoires n'existeraient pas, où tout le monde aurait accès à un statut, et qui passe aussi par une lutte active contre les attaques qui sont faites contre les personnes migrantes, et parallèlement, on en parlera tout à l'heure, des stratégies un peu plus concrètes pour essayer de faire émerger ce qu'on appelle une régularisation par le bas. Mais pour l'instant, l'aspect statut pour tous et toutes, ça s'organise beaucoup en réponse pour ne pas laisser passer les attaques contre les migrants. Donc, en ce moment, ce qu'on fait énormément, peut-être que vous savez que le ministre de l'Immigration, Jason Kenney, a commencé à plusieurs attaques contre les populations migrantes et plusieurs attaques pour démanteler le système d'immigration et de refuge qui va déjà très mal. Donc, au cours de la dernière année, évidemment, on a vu cet été qu'il y a eu l'imposition de visa pour les Mexicains et pour les personnes de la République tchèque pour essayer d'empêcher les revendicateurs de statut de réfugiés roms de la République tchèque et mexicains de faire des demandes au Canada. Il y a un certain nombre de pays où on ne déporte pas les personnes, les revendicateurs de statut de réfugiés déboutés, dont l'Afghanistan, l'Irak, tout ça.
Oui, où il y avait des moratoires, dans le fond, sur les déportations.
Exactement, un moratoire sur les déportations. Bien, cet été, le Burundi, le Libéria et le Rwanda, qui sont des pays apparemment très sécures pour les revendicateurs de statut de réfugiés, ont été retirés de la liste donc pour pouvoir permettre des déportations. Déjà depuis les 10 dernières années, il y a 50%, il y a une augmentation de 50% des déportations. Donc, déjà, il y avait plusieurs attaques. Et là, cet automne, il y a eu des propositions pour rendre ça encore plus dur, réduire de 15 à 20 000 le nombre de réfugiés, de statuts de réfugiés qui seraient octroyés l'an prochain, avoir un système là, de passage rapide, de fast track pour les Mexicains, pour essayer de d'empêcher les Mexicains et les Mexicaines d'avoir accès au statut de réfugiés le plus possible. On veut encore attaquer le système de droit d'appel, donc qui permet à des revendicateurs de statut de réfugiés qui seraient déboutés de faire appel. On veut encore...
Qui est déjà presque inexistant. En fait, là, les mécanismes d'appel quand on applique pour un statut de réfugié sont assez limités, là. Donc, ce serait de diminuer encore les recours disponibles pour les applicants pour le statut de réfugié, c'est ça?
Absolument. En fait, ce serait surtout, pour l'instant, c'est pas très clair, le ministre Kenney n'a pas été clair, mais ce serait surtout de limiter la période pendant laquelle on peut faire appel et de limiter le délai avant qu'il y ait une réponse d'appel, parce que évidemment, Kenney dit, les gens savent qu'ils ont juste à faire appel et là, ça peut prendre plusieurs années, ils peuvent vivre au Canada impunément. Donc, de raccourcir cette période-là pour pouvoir déporter encore une fois les gens le plus rapidement possible, même si ça implique de ne pas faire une bonne revision de leur dossier. Donc ça, c'est d'un côté au niveau des politiques de refuge.
Ça, c'est les changements, dans le fond, que le gouvernement Harper essaye de faire passer actuellement, c'est ça?
Exactement. C'est des modifications, des amendements qui ont été déposés dans la Gazette, donc dans le journal parlementaire, et qui sont sur la table. Et si personne ne les amène en débat parlementaire dans les 90 jours ou les 60 jours suivants, leur publication, ben, ils passent comme ça. Donc, c'est pas des projets de loi, ce sont des amendements qui pourraient passer là, facilement incognito. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi pour les travailleurs migrants temporaires. Donc, à Québec, c'est les Mexicains, beaucoup, qui viennent travailler à l'île d'Orléans, dans les fermes, qui travaillent au sud de Montréal, dans les champs de maïs, à ramasser des pommes aussi, de réduire la période pour laquelle ils peuvent rester au Canada, de façon à ce qu'ils ne puissent pas éventuellement dire ben, « j'ai passé les trois quarts de ma vie au Québec, je demande un statut ». Donc, les obliger à quitter pour 6 ans à chaque 4 années pour ne pas avoir à leur octroyer de statut. Donc, c'est toutes des attaques qui s'en viennent et face auxquelles No One is Illegal et plusieurs organisations alliées essaient de s'organiser pour empêcher que ces modifications-là soient passées à l'hiver.
Donc, c'est vraiment une campagne menée spécifiquement pour lutter contre ces reculs-là en matière d'immigration que le gouvernement Harper essaye de faire passer.
Exactement. Et la forme que ça prend, c'est des associations avec plusieurs organisations partout à Toronto. On a eu un forum public au centre-ville sur cette question-là avec des gens pour nous expliquer les changements, donc des profs d'université, tout ça. Beaucoup d'organisateurs communautaires qui ont parlé de comment ça se concrétise, ces attaques-là dans leur milieu. Et là, on commence à faire des forums un peu partout, en périphérie de Toronto, dans les banlieues, dans les quartiers périphériques, pour essayer de transmettre cette information-là et voir comment on peut travailler ensemble pour construire un front commun contre ça. Et toute cette stratégie-là vise une grosse manifestation le 1er décembre à Toronto avec la majorité des organisations qui travaillent pour les droits des personnes migrantes.
OK, super. Est-ce que vous avez beaucoup de support actuellement? Où est-ce que ça en est, la campagne? Est-ce que vous avez plusieurs groupes qui ont déjà manifesté leur appui actuellement?
Oui, il y a des dizaines et des dizaines de groupes qui ont manifesté leur appui. Ça va des groupes, si on veut, culturels, l'association des migrants latino-américains ou tamouls ou somalis, de Toronto, aux agences souvent d'avocats, donc des conseillers en matière d'immigration qui essaient d'aider les personnes migrantes à remplir leur formulaire compliqué et à obtenir des statuts. Des alliés aussi dans le milieu des services sociaux, dans le milieu éducatif, tout ça. Donc, on construit tranquillement ce pont-là. Donc, c'est des alliés que No One is Illegal a depuis longtemps. Et c'est une initiative de No One is Illegal, mais ça part aussi d'un peu partout. Il y a plein d'autres personnes qui sont extrêmement préoccupées et qui soulèvent cette question-là et qui organisent des événements aussi dans leur communauté ou à l'intérieur de leur groupe. Donc, c'est une espèce de convergence. Et No One is Illegal essaie de faire un travail pour aider cette convergence-là là, vers une grosse action en décembre, mais ça devrait être pas mal massif.
Donc, et c'est un enjeu qui dépasse évidemment la région de Toronto. C'est des modifications qui s'appliquent à tous, aux immigrants à travers le Canada. Donc, j'imagine que les autres sections de No One is Illegal travaillent également sur ça. Puis, je pense que c'est un appel plus large peut-être aux autres groupes d'embarquer dans cette campagne-là si jugent que c'est nécessaire.
Absolument.
Alors, on va retourner en musique. On va aller écouter Dame, cette fois-là, la pièce Mes endroits. C'est une des seules pièces en français de Dame, parce que Dame est un groupe palestinien. D'habitude, ils chantent en arabe, donc c'est une de leurs seules pièces en français. Alors, on s'en va écouter ça et on revient avec David après la pièce.
Yo, Nick Fury, la caution avec Dame. Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se blesse. Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies. Ma banlieue est lointaine de la Palestine. Yo, ma banlieue est lointaine de la Palestine. Mise en quarantaine comme ici par les stupes. La pomme du jardin d'Éden pour nous tous est comestible. Nous nous livrons à nous-mêmes comme un vendeur de pizza hut. Avec les tours, le cordon est comme ombilical. Ça ne se modifie pas, t'es là depuis un pontificat. Tu rêves de repos dominical, république dominicaine sans hooligan. Les petits d'ici veulent être riches comme les petits en Suisse. Qu'importe qui, ils sont dehors les Suisses dans leur chez soi. Ce sont mes lieux, je les vois avec mes yeux. Mesdames et messieurs, mon rap, mes presses. Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se blesse. Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies. Ma banlieue est lointaine de la Palestine.
ما بعد الليل في بلد الليل في شهادة بس ما في وين نعلقها بعد هدد البيت. طب كيف نفوت ومين يسوق إذا في لدبوة بالسيارة كيف بوليس بيسوق ضني على الصدر الوضع بالضرة باب الحارس حساب البنك تحت السفر ففي تلج بالحارة مع كاش تكب شي فيش أسي 500 إذا مش محامية أكيد تعرف كتير محامية. عنا الكل بيشتري سماعات للسيارة قبل ما يشتري السيارة. لحظة في مشكلة بالجملة عنا بالحارة والحد بيشتري الكل بهف واللي بهف بهرب عشان في حد لاحقه بده له أمه. وإذا دخلت وسمعت طلق تبداش بالرماح للنظافة رح ابني الجارة. وإذا بعد طلق كان صفارة اهرب عشان عرس ابن الجارة امبارح كان.
Dans les endroits où on se plaît, dans les endroits où on se blesse.
طلق الهوا لكل فرحة لكل دمعة.
Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies.
Guerre aux Palestiniens, guerre aux Pharaons.
Ma banlieue est lointaine de la Palestine. Beaucoup croient que la France c'est des blancs sous des bérets, des baguettes sous des aisselles et des chansons de Pierre Perret. Y'a des bronzés sous les verrous et des verrues sur leurs agents. Y'a des gonzesses sous des perruques et des héros sans leur argent. Ils sont les seuls à avoir trouvé ces éléphants sans retard. Ils semblent si fiers d'avoir leur téléphone portable. Sans port d'armes, ça cache un pont dans la cave. Y'a v'là les barges, y'en a qui bronzent dans la cave. Nick Fury, la caution sur le terrain. Sûr de ses punks, de ses pains et de ses chiens. Moi mon endroit je l'aime, c'est pour la vie je pense.
No doubt,
no doubt. Un amour la vie de France. Dans les endroits on se plaît, dans les endroits on se blesse. Quelques gendarmes, quelques mandats, quelques endroits et des plaies. Ma banlieue est lointaine de la Palestine.
بدي أشكر الشرطة على خفوفة بتصحصحنا وعلى هدم بيوت جيراننا. شكرا ساعدتونا نحوش إيجارة عنا بالعار. البيوف كبر البركة والأرز كبر البسة وهن من ناحية ديموغرافية الإنسان جنب الفرن العارية. عنا بالعار
Alors, vous écoutez toujours CKIA 88,3 et on s'entretient aujourd'hui à Insiquatelle avec David Moffett qui est à Toronto et qui nous parle de des campagnes que mène actuellement No One is Illegal Toronto ou Personne n'est illégal Toronto. Alors David, on va parler maintenant d'une campagne peut-être plus spécifique encore, une campagne qui s'appelle Don't Ask, Don't Tell, qui est dans le fond, si on pourrait faire une traduction libre, pose pas de questions et donne pas de réponses.
Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le but de cette campagne-là?
Oui. Donc, évidemment, bon, j'ai parlé tout à l'heure que l'objectif, c'est évidemment des statuts pour tout le monde, pas de déportation, à la limite, pas de frontières. En tout cas, on n'a pas une position claire sur est-ce qu'on a besoin ou non d'un système d'immigration, mais ça ressemble davantage à non qu'à oui. Mais on n'a pas vraiment conscience que l'État va faire un programme de régularisation massive. Donc, on essaie de construire ce qu'on appelle une régularisation par la base, à partir de la communauté. Et ça implique de s'assurer les services publics, les services essentiels d'éducation, de santé, de banque alimentaire, de refuge pour femmes, ne pose pas de questions sur le statut d'immigration, ne transmettent aucune information sur le statut d'immigration, d'une part, pour permettre aux personnes migrantes, peu importe leur statut d'immigration, d'avoir accès à ces services-là, et davantage, le suivi de cette campagne-là de Don't Ask, Don't Tell, qui est Sanctuary City, donc pour construire une ville sanctuaire, c'est d'aller encore plus loin que de ne pas demander, mais de prendre position pour que ces espaces-là soient des espaces sanctuaires et refuser toute collaboration avec les services d'immigration. Donc, d'abord, c'est une politique qu'on peut faire passer facilement, c'est-à-dire que dans les réseaux de santé, l'équivalent des CLSC, par exemple, on peut dire, ben, l'important, c'est la santé. Il faut essayer de s'assurer que tout le monde, évidemment, puisse avoir accès à la santé. Pour ça, il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas transmettre l'information, sinon les gens n'iront pas vous voir et vont se priver d'un droit à la santé. Même chose pour l'éducation, etc. Et une deuxième étape qu'on essaie de pousser, surtout avec les partenaires là, avec qui on a des bonnes relations, les refuges pour femmes, certaines commissions scolaires, certains profs, d'aller encore plus loin, demander qu'on déclare que ces zones-là sont des zones sanctuaires où les agents d'immigration n'ont pas à entrer, que la communauté s'engage à protéger les personnes qui sont là, peu importe ce qu'en pensera le gouvernement fédéral et les politiques d'immigration.
Et cette campagne-là répond un peu aussi à une stratégie de l'immigration canadienne qui va cibler, dans le fond, les écoles, les enfants pour aller trouver les immigrants illégaux, qui va cibler aussi les gens ou les lieux où les gens sont déjà fragilisés pour trouver ceux ou pour dénicher ceux qui sont les immigrants qui n'ont pas de statut. Donc, c'est dans le fond d'avoir une zone de protection. Mais moi, ce qui m'a étonné quand j'ai lu un petit peu là-dessus, c'est de voir que en fait, même il y a plusieurs grandes organisations de Toronto qui ont déjà appuyé. Je pense que la commission scolaire des écoles catholiques et publiques de Toronto a adopté cette politique-là, Don't Ask, Don't Tell, puis Zone Sanctuaire en 2006. Donc, c'est le
Toronto Public District School Board. Donc, c'est la commission scolaire publique de Toronto qui est la plus grande commission scolaire de Toronto par ailleurs, mais on est toujours en train de travailler sur la commission scolaire catholique. Ils ont déclaré un Don't Ask, Don't Tell policy. Ce qui s'était passé, c'est que des agents d'immigration sont entrés dans une école secondaire, ont demandé à avoir accès à certains jeunes, les ont arrêtés ou en tout cas leur ont demandé de les suivre, les ont kidnappés, en tout cas ils n'ont pas arrêté, mais sont partis avec eux, et afin de trouver les parents. Et c'est des jeunes de l'école qui ont contacté No One is Illegal pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Et avec les gens de l'école et de la communauté, tout le monde s'est toujours présenté aux rencontres des commissions scolaires. Et puis on fait pression pendant plusieurs mois jusqu'à ce que la commission scolaire accepte théoriquement de ne pas te poser questions et de ne pas transmettre l'information. Cela dit, ils ont une formation par rapport à comment on doit réagir si un agent d'immigration arrive dans une école et veut parler à un jeune. Par contre, ils continuent toujours, et on essaie toujours de pousser plus loin, ils continuent toujours, dans une certaine mesure, à demander le statut, ou en tout cas, ça revient aux personnes qui s'inscrivent de prouver qu'elles n'ont pas de statut, parce que sinon, ils chargent des frais là, d'étudiants internationaux aux gens qui ont des permis pour être au Québec, des permis de travail et tout ça, et donc ils veulent pas perdre cet argent-là, donc ils... De façon détournée, ils demandent aux gens de prouver qu'ils n'ont pas de statut pour payer le même prix que les autres. En tout cas, c'est une lutte qui est toujours compliquée, mais on a effectivement réussi à ce qu'il y ait une prise de position. Et on travaille avec cette commission scolaire-là et avec des profs alliés à l'intérieur de cette commission scolaire-là et des écoles particulières pour essayer de faire en sorte que ce soit davantage appliqué. Et on continue, par exemple, avec la commission scolaire catholique. C'est les premières négociations pour qu'eux adoptent ce genre de politique-là.
Et on parle des écoles, mais cette campagne-là s'adresse aussi à d'autres secteurs, comme tu as dit tout à l'heure, le secteur de la santé, même, je pense, les services policiers aussi, par rapport aux victimes, aux témoins, aux refuges pour femmes aussi. On a parlé aussi tout à l'heure, peut-être que tu peux donner quelques exemples de d'autres lieux où cette campagne-là peut s'articuler.
Mm-hmm. Ben, je dirais en fait qu'effectivement les refuges pour femmes violentées, c'est sans doute un des endroits où ça se passe le mieux, dans la mesure où, même si c'est des organisations parapubliques, ce ne sont ni les commissions scolaires, ni le réseau de la santé, là, c'est des organisations souvent plus petites, dans lesquelles il y a beaucoup de féministes, de vieilles féministes, qui ont milité beaucoup à une autre époque, qui souvent militent un peu moins aujourd'hui et qui sont interpellées par ce sens-là. Donc nous, on pose d'abord les femmes qui fuient la persécution en tant que femmes, qui sont confrontées à de la violence sexiste, qui arrivent au Canada souvent ont beaucoup de difficultés à obtenir un statut de réfugié, sont souvent déboutées. Donc on ne reconnaît pas ce genre de persécution-là. Elles se retrouvent particulièrement démunies au Canada. Et en plus, il y a des attaques contre elles dans les seuls endroits où elles peuvent trouver souvent refuge. Il y a eu des cas où une femme violentée a été déportée avec son mari. On est allé la chercher dans un refuge pour femmes violentées pour la déporter vers le Mexique avec son mari. On ne sait pas trop ce qui se passe avec cette personne-là aujourd'hui. Au nom de la lutte contre la violence sexiste, on travaille avec les femmes qui travaillent dans ces centres-là pour, et là, davantage prendre une position comme zone sanctuaire et de dire, là, en ce moment, on travaille avec 6 centres à Toronto où on a des bons liens pour qu'ils fassent un premier pas et puissent dire, dans notre centre, c'est la protection des femmes qui est la plus importante, c'est la santé des femmes, et comme on ne révélerait pas à un homme qui se pointerait ou à n'importe qui se pointerait si Madame une telle est chez nous, de la même façon, si un agent d'immigration se présente à nos portes, on garde la confidentialité, on ne révèle pas qui est là, ni c'est quoi leur statut, et on ne laisse entrer personne parce qu'on doit protéger les gens qui sont chez nous. Donc, prendre une position, si l'État n'est pas en mesure de protéger les femmes contre la violence sexiste, que les centres, les refuges pour femmes vont le faire. Et donc, on a ces 6 premiers refuges-là qui devraient, au printemps, prendre position publiquement, faire voter à l'interne et prendre position publiquement comme étant des zones sanctuaires. Et à partir de ces relais-là, on les aide à essayer d'organiser d'autres refuges pour essayer éventuellement que tous les refuges de Toronto puissent prendre cette position-là. Et bon, on travaille avec l'éducation, avec la santé. L'idée étant qu'en 2012, même si ça reste pas nécessairement concrètement appliqué, que plusieurs institutions avec des services essentiels puissent prendre position et déclarer que Toronto est une ville sanctuaire, ou à l'image entre autres de San Francisco, qui a une politique un peu semblable, où la plupart des institutions dans la ville refusent de collaborer avec les agents d'immigration.
Alors David, c'était malheureusement tout le temps qu'on a, mais 2012, c'est un peu l'objectif de No One is Illegal. J'imagine que on veut propager l'idée aussi, cette idée-là de créer des zones sanctuaires. Donc, je pense que c'est un exemple intéressant pour d'autres villes ou d'autres espaces qui peuvent adopter, dans le fond, les mêmes stratégies. David, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous de cette campagne-là et des activités de No One is Illegal. Si tu as quelque chose à dire, en conclusion, peut-être le faire rapidement, mais...
Ça me fait plaisir d'avoir parlé avec vous. Si les gens sont intéressés à en savoir davantage, juste de googler No One is Illegal. Si vous cherchez dans la première page qui apparaît, vous allez avoir No One is Illegal Toronto, Vancouver, Montréal. Vous avez les campagnes que No One is Illegal à travers le Canada mène et vous pouvez vous informer et vous joindre à nous.
Parfait. Merci beaucoup, David.
Merci.
Alors, on s'en va en musique. On s'en va écouter Wyclef Jean avec Sans Fésie.
Bali Boulevard.
Les Haïtiens cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bons mieux que beau yo dévo, c'est leur mourir police venir. Moi nous monsieur Normati. Les Haïtiens cap d'image New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bons mieux que beau yo dévo, c'est leur mourir police venir. Moi nous monsieur Normati. Madame capé souffle à bouche, moi voyons police à venir. Dis-moi ma vente drogue, moi dis mon cher ou menti. Living pour venir checker, moi dis-moi pas gagner rien. C'est dans un petit bac, moi t'as pris là pour me checker un petit zin. Big up, fantôme, moi, mais t'as mon combo, si ça te fait des pubs dans ballon, moi de côté mon yo. Tim Tim bois sec, moi courir les mouvres, porte dans un cimetière. Passez-moi, voyons tête sans corps. ABCDFG, souffle bataille, c'est danger. Même sous quand je fais football, dernier gol, non, c'est pour pélé. A jouer maman, maman c'est créole. Fizim c'est boussole, compam c'est la colle. Original haïtien. Quoi des bouquets, gen mec qui pense c'est Brooklyn, fête Haïti fête. Quoi des bouquets, tendez. Y'a ici cap d'image en New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bons yo kembo yo devo, c'est leur mouille police fini. Moi nous monsieur Normati. Y'a ici cap d'image en New York sans fusil. Moi nous monsieur Normati. Les bons yo kembo yo devo, c'est leur mouille police fini. Moi nous monsieur Normati. Président, moi pas le président. Passez microphone, non, moi c'est gouvernement. Bon homme c'est Wyclef, yo et les m'fanfans. Moi gagne un tisseur, yo et les au salon. Moi gagne un cheval qui vole chaque soir. Moi gagne cheveux poivre, moi pas le cheveux soir. Bad boy haïtien qui sorti en Haïti. Depuis moi un problème, moi râle ousine. Les mâles d'école américaine te conjuré. Yo tiré les m'nègres, yo et les m'tinec kiné. Jean yo parle moi, ouais, yo pas civilisé. Jean yo parle moi, ouais, yo pas contre bon Dieu. 45 bon côté plus moins gagne pépé collé. Si on est testé, ma pépé te dégrenzil. Original haïtien qui sorti Jérusalem. Si on est testé, ma nessa ou pas pour Noël. Qui haïtien cap d'image New York sans fusil. Moi nous, monsieur Normati. Les bons yo kemo yo devo, c'est leur mot et police.
Alors, vous êtes toujours à Insquatel et on s'en va. On discute avec Evelyne sur la place des hommes ou les hommes pro-féministes.
Si on veut. En fait, aujourd'hui, je vous propose des extraits d'un texte intitulé « Les pro-féministes, compagnons de route ou faux amis », paru dans le numéro 1 du volume 21 de la revue Recherche féministe en 2008. C'est un texte de Francis Dupuy-Déry que j'espère qu'il va alimenter votre réflexion sur la place des hommes dans le féminisme et surtout des pro-féministes. Dans ce texte-là, l'auteur essaie de répondre à deux questions. D'abord, il dresse un portrait des raisons qui peuvent pousser un homme à se dire pro-féministe. Puis ensuite, il donne son avis à lui sur ce que devraient faire les hommes pour aider, dans le fond, le mouvement féministe. En commençant, l'auteur, il définit le patriarcat à la manière des féministes matérialistes. Donc, je vais vous le lire. Dans le fond, ces féministes m'ont convaincu que le patriarcat, comme n'importe quel système de domination, repose sur une division, clivant la société en deux classes antagonistes. Dans le patriarcat, les hommes sont membres d'une classe dominante et privilégiée, et les femmes d'une classe dominée et exploitée. Donc, c'est sur cette lecture-là qui se repose pour parler dans le reste de son texte. C'est sur cette base-là qu'il considère que les hommes, dans le fond, n'ont pas leur place à l'avant-scène du mouvement féministe parce qu'ils sont porteurs d'intérêts différents des femmes qui jouissent en tout temps de privilèges symboliques ou matériels du simple fait qu'ils sont des hommes dans le patriarcat. Donc, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant dans son texte. C'est la partie où Francis Dupuy-Déry énumère ces privilèges-là dont les hommes jouissent dans le patriarcat parce que souvent, on se fait dire que l'égalité homme-femme est atteinte de nos jours. Mais pourtant, et je cite Francis Dupuy-Déry, « Toute chose égale, d'ailleurs, un homme a plus de chances qu'une femme d'atteindre les sommets des diverses structures hiérarchiques dans la sphère politique, économique, médiatique, culturelle, militaire et policière, scientifique et religieuse, ainsi que dans les puissants réseaux criminels. L'homme sera en général considéré comme plus compétent qu'une femme pour des emplois prestigieux et bien rémunérés. Un homme hétérosexuel vivra généralement en relation avec une femme qui dispose de moins d'argent que lui. Il aura donc plus d'autonomie dans le marché et plus de facilité qu'une femme à paraître crédible lorsqu'il sera question de brasser des affaires. La parole d'un homme sera considérée comme plus crédible que celle d'une femme. Il sera en général plus facilement imposé à des interlocutrices ses sujets de discussion. Ce sera généralement lui, quand il sera avec une ou des femmes, qui aura le privilège de conduire l'automobile ou de marcher à l'avant. S'il est accompagné par une ou des femmes, il saura que ce sera le plus souvent à lui que l'on s'adressera pour les choses importantes, sauf en ce qui concerne les enfants, la cuisine et les malades. L'homme pourra s'identifier aux acteurs principaux lorsqu'il verra des films, lira des romans, écoutera ou encore lira les actualités ou des livres d'histoire. Il saura plus facilement s'identifier aux plus prestigieuses figures mythiques de sa culture, ainsi qu'aux figures religieuses les plus puissantes, que ce soit le pape, Dieu ou le diable. Un homme n'aura en général pas peur de marcher seul dans la rue ou de voyager seul dans divers pays et pourra profiter du rôle de protecteur à l'égard des femmes craignant de se déplacer dans l'espace public. Un homme hétérosexuel saura qu'il peut régler un différend avec sa conjointe en utilisant une violence terrorisante et ne craindra pas que cette conjointe ait recours contre lui à de la violence physique. Il pourra s'attendre que des femmes soient à sa disposition pour ses plaisirs sexuels, pornographie, prostitution, salariée ou non, ou simplement pour s'occuper de lui et de ses enfants. Écoute et soutien psychologique, tâches domestiques et parentales, premiers soins, etc. L'homme pourra profiter du travail accompli gratuitement pour lui par des femmes pour se dégager du temps libre qu'il mettra à profit comme il le veut. Il saura que son orgasme marquera généralement la conclusion d'un rapport sexuel avec une femme. Il saura en général s'attendre à inspirer le respect et l'admiration s'il s'approprie sexuellement plusieurs corps de femmes. Un homme pourra s'attendre de la part des autres hommes à une solidarité implicite ou explicite s'il a des paroles ou des comportements ouvertement misogynes. Il saura discréditer une femme, le confrontant en identifiant cette fronde à des déterminismes biologiques non politiques. Tu es hystérique, tu vas bientôt être menstruée, etc. Et il saura compter sur un ressac antiféministe quand des femmes contesteront individuellement ou collectivement les privilèges masculins et il trouvera même sans doute des femmes prêtes à prendre sa défense contre les féministes, sans doute s'en prenant à ses idées. Donc, je trouvais que c'était une belle et très longue énumération d'intérêts et de privilèges masculins. On pourrait en parler longtemps. Mais pour l'auteur, c'est donc à cause du patriarcat que les hommes ne peuvent pas tout seuls se départir de leur statut de mâle et de la position de dominant dans ce système-là. Et c'est pour ça que la position de l'homme pro-féministe est délicate, parce que, comme on le voit dans le texte, en se posant comme protecteur des femmes et de leurs droits, l'homme pro-féministe pose encore la femme dans la position de faible, de même quand il lui donne des conseils ou soi-disant sur comment s'émanciper. Donc, je vais vous laisser digérer tout ça tout de suite et après on va revenir avec les raisons que l'auteur a identifiées pourquoi certains hommes se disent pro-féministes.
Alors, on va écouter l'artiste That One Guy avec la pièce Jigsaw.
Acting like a zero, feeling like a hero, dull like a doorknob, dull like a dumb job. Cooking up my own feast, cruising left to east, holding up a lamppost, full blown wiener, stiff like new jeans, jumping like jamborees, creeping like a spider, lying like a liar, drooling like a mad dog, lost in the thick fog, stack me a full deck, I'm lost, all head gods in the pocket, fingers in the socket, got me a new look, hanging from a meat hook, bad like rotten meat, hot like candy, quick like fast feet, driving from the back seat, stray like an alley cat, grunge like a doormat, red like a stop sign, bold like a shoe, shine high like a wino, wide like a rhino, bright like the sunshine, breaking like a porcupine, sticking with the program, picking up the toe jam, underneath a full moon made of cheese. Of a perfect circle, it will cut through wood like butter. You know the grass is always greener and the gravity grows stronger. The
bark is getting bigger and the bite is biting harder. The bread is growing moldy and the weeds are growing taller.
Alors, sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes à l'écoute de Squatel et Evelyne nous lit des extraits du texte de Francis Dupuy-Déry sur les hommes pro-féministes.
Oui, en fait, avant la pause musicale, je vous expliquais un peu comment il considère que les hommes pro-féministes sont dans une position délicate. Mais Francis Dupuy-Déry va plus loin que ça dans le sens qu'il est assez pessimiste quand il analyse les raisons qui peuvent pousser un homme à se dire pro-féministe. Il commence par écarter l'hypothèse anti-féministe qui voudrait que les hommes pro-féministes présente un désordre d'identité sexuelle là, et haïssent leur sexe. Ils refusent aussi de voir les hommes pro-féministes comme des justes et purs en quête progressiste d'égalité, puisque tous les progressistes ne sont pas pro-féministes et loin de là. Donc, une des hypothèses qu'ils développent, c'est que les hommes pro-féministes ont des avantages très concrets à être pro-féministes. Ils développent une typologie il reprend une typologie des auteurs qui identifient différentes sortes d'hommes pro-féministes, soit l'opportuniste, le poseur, l'initié, l'humaniste ou l'autoflagellateur. C'est très, très beau de la façon dont il décrit ça. C'est plein d'humour, mais en résumé, il considère que, et je cite, « les hommes peuvent donc être pro-féministes s'ils pensent en tirer divers avantages, que ce soit la construction ou la justification d'une identité sexuelle en décalage avec la masculinité viriliste, une haute estime d'eux-mêmes, de soi en se comparant aux autres hommes, une image publique d'individus courageux et progressistes ou encore, et pour le dire de façon très crue, un accès plus aisé au corps des féministes qui pourraient être plus inclines à tomber sous le charme d'un homme pro-féministe que sous celui d'un misogyne affirmé. » Donc, assez sévère, assez sévère, c'est ouais.
Quand même, mais j'imagine que, ouais, en tout cas, il y a ces catégories, mais j'imagine qu'il peut y avoir des choses à l'extérieur de ces
oui,
catégories.
Enfin, il y a deux autres hypothèses qui expliquent pourquoi des hommes peuvent être pro-féministes. Il y en a un qui c'est l'amour des femmes et plus particulièrement de féministes, pas dans le sens de par amour, par dévotion, mais dans le sens que la proximité avec certaines femmes vivant et théorisant l'oppression patriarcale peut contribuer à la révolte des hommes face à cette oppression-là. Donc ça, il reconnaît comme une hypothèse, comme une raison légitime de devenir pro-féministe. Puis aussi, il l'explique par la confrontation avec des féministes et par le rapport de force que des féministes bâtissent dans des groupes ou dans des mouvements. Donc pour Francis Dupuy-Déry, c'est essentiellement le rapport de force créé par les féministes qui permet dans tous les cas à des hommes de devenir pro-féministes, même si c'est par amour ou par souci de cohérence. Il donne vraiment beaucoup d'importance à ce rapport de force-là, puis à cause de cette importance-là qu'il accorde au rapport de force, c'est pour ça que Francis Dupuy-Déry ne conseille pas aux hommes pro-féministes de s'impliquer dans les groupes féministes, pas plus qu'il leur conseille de se regrouper entre hommes pro-féministes, parce que si les hommes dans les groupes de femmes reproduisent malgré eux certains comportements de domination qui demandent de l'énergie aux féministes pour les confronter, ou encore s'ils ont certains comportements de séduction qui peuvent désolidariser les femmes dans les groupes, ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, les groupes non mixtes, hommes, quant à eux, renforcent le pouvoir des hommes en les solidarisant entre eux. Donc, c'est vraiment un résumé grossier, là, mais c'est pour ça qu'il leur conseille
pas
de
s'impliquer. Ça explique assez bien sa position.
Ouais. Voilà. Alors, je voulais, en troisième lieu, vous parler de qu'est-ce que l'auteur conseille de faire pour les hommes pro-féministes. Alors, je pense qu'on va écouter, on va prendre une petite pause musicale, puis
on va aller,
je vais revenir.
On va aller écouter Sister Carol, un peu de reggae pour nous péper ça, avec la pièce Looking the Food.
Ha! highly blessed. Yes, the Empress. You feel me? Panada agenda. Surrender. Lioness, I look the fool. Fi take care of the cup. Can't stop the Empress from make it rubber dub. Them fi treat me like me a scrub. When me up, me money dash with the pace to. Lioness, I look the fool. Fi take care of the cup. Them can't stop the Empress from make it rubber dub. How them fi treat me like me a scrub. When me up, me money dash. Hey, chop. I'm still a star, I hide from the truth. And that is why I peer fuse them, they're crude. Some little twigs while I try this, the rule. And the disrespect, cause the cast it refute. So shine it mine, it ripen the fruit. How it make time for me words and dilute. Send me no pan coat. I want you to know me represent the youth. Lioness, I look the fool. Fi take care of the coat. Can't stop the Empress from me Kirabado. How them fi treat me like me a scrub. When me walk me money dash with the piesto. I'm in no part of your secret society. I suppose all those I'm in no see no industry. I want you know me no part of your passive. Me nah snap no quote finger. Chop, chop. Me burn the hype and me burn all the effort. And seek a approval only from the Almighty. I want you know see me no itty tighty. Get a girl like me say spirituality. A lioness a look the fool. Fi take care of the code. Them can't stop the Empress from me the rubber door. Say how them fi treat me like me a scrub.
Donc, que faire ce soir pour les hommes pro-féministes qui ont quand même, qui ont pour une raison ou une autre envie d'aider le mouvement féministe? Francis Dupuy-Déry répond « disempowerment », donc s'enlever du pouvoir, laisser la direction du mouvement aux femmes et se limiter à un rôle d'auxiliaire, réduire son pouvoir sur les femmes individuellement et collectivement. Facile à dire, hein, mais pas toujours facile à faire. Reconnaître les situations individuelles comme relevant du système patriarcal et comme ayant une cause politique plutôt que psychologique. Et réduire son pouvoir avec les autres hommes, en notamment en repérant et en contrant les paroles et les gestes misogynes. Donc, tout un programme pour les hommes féministes, mais pro-féministe, ce que je voulais souligner comme originalité dans le texte de Francis Dupuy-Déry, c'est qu'il ose appeler à une défaite politique des hommes devant un féminisme victorieux. Donc, il tombe pas du côté des hommes qui vont dire, par exemple, que la lutte au patriarcat ou le féminisme est aussi à l'avantage des hommes. Parce que s'il reconnaît que du côté de l'homme individuel, c'est vrai que pour le féminisme peut lui permettre d'accéder plus facilement, par exemple, à une vie émotive plus riche ou encore à devenir plus autonome en apprenant à faire les choses que les femmes faisaient pour lui, il refuse de faire ça, d'utiliser ça comme une raison politique, parce que pour lui, l'expression des émotions en soi, ça n'a aucune signification politique. Puis le dernier extrait dont je voulais vous lire, c'est à ce sujet-là, il dit « La rhétorique qui consiste à prétendre que les hommes ont tout à gagner du féminisme passe sous silence que le renversement même partiel d'un système de domination est un processus politique qui implique nécessairement des perdants et des gagnantes. » Les hommes jouissent en général dans le système patriarcal d'une vie stimulante et enrichissante dans tous les sens du mot et d'une grande autonomie politique. L'égalité suppose que les hommes perdent leurs privilèges, leur position de dominant et les possibilités d'exploiter des femmes individuellement et collectivement. » Puis il termine sur une note quand même assez pessimiste en disant « c'est bien facile, ben. » Je paraphrase, c'est bien facile pour moi d'être pro-féministe aujourd'hui parce que je sais que peu importe les concessions que j'accepte de faire face aux féministes, le système patriarcal n'est pas encore renversé. Puis, tant qu'il n'y aura pas une victoire totale des féministes contre le patriarcat, je vais continuer de bénéficier d'avantages. Donc, c'est bien facile pour moi de dire ça.
Mais quand même, c'est assez original comme position, parce qu'il n'y a pas grand monde qui dise ça, là, qu'il faut avouer défaite, dans le fond.
Exactement. Donc, je conseille à tout le monde d'aller lire le texte. Je pense que je vais le rendre disponible sur notre site web. Je l'ai en PDF. C'est disponible dans la revue Recherche féministe, volume 21, numéro 1. Donc, à lire
à consulter sur notre site internet. On vous rappelle, l'adresse, c'est www.sisquatel.org.
Oui, .org.
Et peut-être une petite salutation aux gens de l'AJT qui nous écoutent actuellement. Ce soir, au Mardi de l'Anarchie, c'est un atelier de Coco Riot sur le queer. Donc, si vous avez la chance d'y aller, ben c'est maintenant, en fait. Ça commence là.
C'est mardi, 20h.
Donc, à la JT, au 251 rue Dorchester.
Et si vous voulez entendre parler un peu plus de queer, je pense que ça va être notre sujet, ainsi soit-il, la semaine prochaine.
Excellent. Donc, c'est déjà la fin pour nous. On s'en va peut-être en musique pour conclure ça en douceur avec une pièce musicale, instrumentale, en fait, du Hypnotic Brass Ensemble. Avec la pièce Zankofa. Sinon, ben, restez à l'écoute de Sequoia parce que suis juste après nous l'émission Cultive ton hip-hop et nous, on est en rediffusion pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous écouter les jeudis à 13h.